6 heures.
Les gardiennes de rue. Peut-être les avez-vous déjà croisées dans les rues en allant prendre le bus, acheter le pain ou lors d'une rentrée de soirée. Mais qui sont-elles ? Que surveille-t-elle ? Connue sous le nom de la Dame qui colle, cette artiste lilloise originaire de Paris colle ses portraits de femmes dans la rue depuis 2021. Ses gardiennes surveillent les rues de la métropole lilloise, mais également celles d'autres villes françaises et européennes. Présentes dans les rues sombres et dans des endroits étroits, elles soulèvent des questionnements féministes quant à la place de la femme dans l'espace public. La Dame qui colle a accepté de venir nous parler des prémices et des objectifs de ce projet.
Ça fait 4 ans que je colle, j'ai commencé à coller juste après les confinements à la rencontre d'un portrait d'une personne qui m'a raconté son histoire de violence. Et je me suis dit, la meilleure manière de défendre mes propos, ce serait de coller des portraits de femmes qui ont elles-mêmes lutté dans leur vie contre des violences qu'elles ont vécues et d'aller les afficher. Et on a choisi ensemble avec le portrait 1 et à la suite avec le portrait 2 de les appeler comme ça, les gardiennes de rue. Mon travail artistique est surtout d'aller à la rencontre de femmes, de parler de ce qu'elles ont vécu, de les rendre visibles, de les mettre à l'aise et de donner à voir dans l'espace public des femmes libres de leur corps et de leur manière de penser et de leur donner la possibilité de se défendre de soit ce qu'elles ont vécu elles, soit de ce que pourraient vivre les autres dans l'espace public. J'ai collé un tout petit peu à Roubaix, Tourcoing. J'ai collé plus de 200 portraits en vrai dans toute l'Europe. Donc il y a certaines villes où j'ai décidé d'aller, notamment Bordeaux ou Marseille, surtout Marseille que je voulais. Et là je vais aller à Lyon la semaine prochaine. Je cible aussi des villes, des grandes villes dans lesquelles on sait que les femmes se font agresser majoritairement. Et je vais à la rencontre des gens et je leur demande où sont les endroits où les gens sortent. Et du coup je quadrille ces espaces-là et je colle dans les rues un peu sombres entre les gens, l'endroit où on vit et l'endroit où on sort. Donc je cible un peu des villes où je colle.
Et t'avais pas commencé directement par les collages, t'avais fait d'autres choses avant ?
Oui, alors carrément, ouais. En fait j'ai commencé par le dessin parce que c'est l'outil le plus simple et qui coûte le moins cher, donc je trouvais que ça cool. Du dessin, je suis passé un peu au graphisme et en quittant Paris pour remonter à Lille, je pensais pas du tout passer au collage. Le collage est venu parce que je voulais passer dans l'espace public, parce que j'étais en colère et parce que le portrait. Hein. C'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui me dépasse, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Alors que j'avais déjà mon métier artistique qui était déjà très engagé politiquement, mais pas sur ces sujets-là. Et à la lecture d'un livre d'un anglais qui s'appelle John Berger dans les années 80, qui s'appelle Voir le voir. Et dans ce livre, ce qu'il raconte, c'est qu'un artiste peint ce qu'il voit. Donc ça veut dire que s'il regarde une œuvre dans un musée, c'est le regard de la personne même qui peint. Et en fait, la plupart des artistes sont des hommes. Du coup, ça veut dire que tout ce qu'on connaît de l'histoire de l'art, c'est un regard masculin, donc un male gaze. Et je pense que là, ça m'a un peu marqué de me dire déjà qu'est-ce que je fous dans un métier dans lequel je ne serai jamais reconnue puisque je suis une femme. C'est-à-dire que 10% des femmes peuvent peut-être réussir dans ce milieu-là, mais c'est très faible. Et en plus, l'éducation que j'ai reçue visuelle n'est qu'un regard masculin, donc j'avais du mal à me rendre compte à quel point j'étais imprégnée. Mes propres dessins étaient faux en fait, qu'ils n'étaient pas les miens. Et donc ça a été le basculement puisque dans ce livre aussi, il fait référence à quelque chose. Il dit que en chacune de nous, il y a une surveillante qui surveille la surveillée. Ce qui signifie que quand tu vas sortir dans la rue, la surveillante te regarde, t'analyse toi-même, donc c'est quand même toi, hein. Et avant que tu sors dans l'espace public, tu te corriges toi-même pour pouvoir ressembler à l'image qu'on attend de toi dans l'espace public. Et ça, c'était un peu l'élément déclencheur de « j'ai de la colère, je comprends pas, j'aime pas cette contrainte, j'ai envie de l'interroger, elle devient problématique pour moi ». Puis le portrait 1 qui m'a foutu son histoire. C'était pas la première fois. Moi aussi, j'étais agressée à 19 ans. J'ai vécu pas mal d'agressions sexuelles qui étaient violentes. Et en fait, je pense que là, cet écho-là me disait « allons simplement dans ce sujet-là ». Il est déjà très simple. Et c'est déjà hyper essentiel de débattre sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être survivante d'une agression, j'aime pas le mot victime, et qu'est-ce qui nous traverse et comment est-ce qu'on résiste.
J'aimerais bien parler un petit peu maintenant de la façon dont tu représentes les femmes. Comment est-ce que toi tu as décidé de représenter les femmes ?
Déjà, je trouve que le plus cool c'est d'accueillir quelqu'un, c'est-à-dire que tu accueilles la personne entièrement pour ce qu'elle est, celle qui est choisie entièrement tout ce qu'elle est, donc le style vestimentaire, le regard, la posture. Je dirige très peu. Le but c'est quand même qu'elle se montre pour ce qu'elle décide de montrer. Elles n'ont pas de particularité dans leur représentation pour moi, elles sont plutôt des individus que j'ai croisés. Avec lesquels je vais pouvoir me sentir à l'aise parce que moi-même je vais aussi porter mon style à moi de liberté de style vestimentaire et avec moi elles vont pouvoir elles-mêmes être ce qu'elles décident d'être. Du coup la représentation revient naturellement à quelque chose de très contemporain parce qu'elles sont en fait les femmes sont assez streetwear, elles sont pas hyper sexualisées, c'est quand même dans des cas de figure hyper particuliers qu'on va se costumer je trouve, alors que la plupart du temps mes modèles choisissent des vêtements dans lesquels elles se sentent confortables et la plupart des hommes aussi que je dessine c'est juste des personnes ordinaires et ça j'aime bien.
Ouais, du coup c'est vraiment un changement de paradigme, ce n'est plus l'artiste qui choisit comment représenter la femme. C'est plutôt la femme qui choisit la manière dont elle va être représentée.
Il y a aussi quelque chose qui se joue, c'est l'image qu'on peut porter de soi à soi. Et j'aime bien dans l'exercice de la rencontre essayer de trouver la beauté dans la personne. C'est-à-dire que tout le monde est beau. Et quand on tombe amoureux, le visage de la personne se modifie. Tu peux rencontrer quelqu'un et au bout de 6 mois, un jour, quand tu as des sentiments amoureux, la personne devient irrésistible. Et je trouve que j'essaye de le chercher dans la rencontre parce que la beauté, elle ne naît pas de l'attirance, elle naît de la connaissance qu'on a de l'autre et de la façon dont la personne se laisse aller à exister devant toi. Et ça, je trouve ça hyper chouette de le cueillir. Je trouve que mes modèles sont très belles.
Donc à chaque fois que tu les rencontres, Mais est-ce que tu as déjà représenté des modèles que tu n'avais pas rencontrés, justement ?
La seule personne que j'ai pas rencontrée, c'est Gisèle Pellicot. On est quand même sur un sujet qui est hyper particulier. La chose pour moi qui la rendait la plus particulière, c'est qu'elle ouvrait un procès énorme sur la problématique des violences faites aux femmes et du rapport des hommes au corps des femmes. Et donc, du coup, elle rentrait dans mes gardiennes de rue sans souci. Quoi. Je me disais, tiens, j'en ai parlé pas mal aux filles, hein, aux modèles, en disant, j'ai envie de la faire rentrer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle rentre dans notre série ? Parce que moi aussi, je suis dans ma série. Et du coup, elles m'ont dit, mais bien sûr, la particularité quand même de cette femme, c'est qu'on le voit hein, dans le peu d'interviews qu'elle a, c'est qu'elle parle des autres, pas d'elle. Et je trouve que ce qui réunit tous mes modèles, c'est quand même oser être dans l'espace public. C'est un choix. Comme je dessine quand même quasi comme de la photo, c'est mon but, c'est que ce soit très réaliste. On peut reconnaître les femmes. Et du coup, c'est prendre le risque d'être vue avec ces opinions-là. Et je trouve qu'elle faisait partie de ce cheminement-là.
On en avait parlé tout à l'heure par rapport à la question des femmes minoritaires et même les minorités en général. Est-ce que tu as déjà représenté à travers ton travail des femmes issues de minorités, des femmes qui seraient trans, des femmes racisées, des femmes LGBT
Dans les minorités, c'est variable puisqu'il y a pas mal de communautés différentes. J'ai pas de femmes trans parce que j'ai pas eu dans mes rencontres directes des débats avec des femmes trans sur les problématiques qu'elles ont pu subir, sachant que c'est en plus encore un autre débat sur les souffrances que peuvent occasionner la transidentité ou, tu vois, moi, le sujet que je traite qui est sur la question des rapports de violence faits par les hommes. Clairement, elles peuvent quand même rentrer dans ces débats-là. J'ai quelques femmes racisées, ça dépend toujours de ma rencontre, ce qui fait que ce qui peut être intéressant et difficile pour moi aussi, hein, c'est que sociologiquement, on peut étudier mon travail par rapport au fait que je sois une femme blanche hétéro. Mes rencontres vont être limitées à mon cercle,
et à ton cercle social.
Je vais rebondir de temps en temps en allant un peu plus loin, où des gens vont me rencontrer et savent que c'est mon travail, et du coup peuvent me raconter une histoire, et je leur dis dans la confidence, est-ce que tu souhaites être mon modèle ? Mais c'est pas si simple. Et du coup, tu peux faire une étude sociologique de mon taf à travers ne serait-ce que quel est mon rayonnement personnel d'individu. Donc j'ai quelques femmes racisées, des femmes LGBT aussi, mais en fait, tu sais pas qui est quoi. Je trouve que sur la question de la minorité, notamment, je pense à un de mes portraits d'une femme racisée, la question n'était pas sur le fait qu'elle était racisée. On était que sur la question d'une femme qui a subi des violences. Le vrai débat étant la question du rapport de force et de domination. Donc là, on revient sur le problème du patriarcat. Ça revient toujours à cette question, c'est comment est-ce qu'on peut faire rendre visibles les personnes ordinaires qui, elles, supportent le monde comme il est.
Puis, par rapport à cette question de représentation, on en avait aussi parlé, pour certaines, c'est compliqué, en fait, d'être représentée dans la rue.
Là, tu peux avoir, par exemple, des questions sur les femmes qui vont avoir une pratique, qui seront musulmanes et qui vont porter le voile et qui sont déjà venues dans une exposition et qui m'ont dit « Pourquoi vous n'avez pas de femmes voilées ?» Et là, je leur ai dit « Est-ce que pour vous, ce serait simple de devenir modèle pour moi ?» Bien sûr que non. Et je me dis « En fait, voilà, je peux me retrouver confrontée aussi dans des rencontres avec des personnes qui soient n'ont pas le désir de devenir modèle et de se montrer dans l'espace public, qui veulent aussi me dire la question de l'hypersexualisation des corps, moi, c'est aussi un outil que j'utilise dans ma séduction et j'ai pas envie d'interroger ça dans l'espace public. Parce que si je commence à lutter contre l'hypersexualisation de mon corps, je ne peux plus utiliser mon talent de séduction aussi auprès des hommes.
On se rend compte que le patriarcat, au final, est bien implanté dans nos têtes. Nous sommes toujours en train de parler de la série de collages Les Gardiennes de rue, une démarche artistique féministe initiée par l'artiste La Dame qui colle depuis 2021. L'artiste nous explique les origines de ce projet ainsi que ses objectifs. Projet qui, on peut s'en douter, suscite certaines réactions au sein des observateurs. Étant donné que ces collages se retrouvent dans l'espace public, est-ce que tu as déjà retrouvé des actes de vandalisme sur tes collages ? Donc, par exemple, de gens qui viendraient souiller, entre guillemets, avec des messages obscènes de mascu, je sais.
Alors, déjà, cool, pas trop. J'ai eu un pute sur un de mes portraits là qui est pas très loin de chez moi. Gisèle Pellicot a été pas mal dégradée, il a été restauré par des femmes qui habitaient à côté de son portrait. Et je trouve qu'elle a été pas mal dégradée par rapport à d'autres portraits. Je trouve sur le papier, il y en a eu un peu, mais du texte. Mais souvent, c'est plutôt on arrache la tête ou les yeux. Alors je me dis, est-ce que c'est à notre regard et du coup ça gêne, donc on arrache les yeux ? Est-ce que c'est parce que le regard est gênant ? Est-ce que c'est parce que le papier se décolle à cet endroit-là ? Ça reste toujours un mystère. Donc j'ai quand même eu pas mal de dégradations. Il y avait notamment une période au début de mes collages où on décapitait les mannequins de vitrine. Mes collages aussi se faisaient décapiter. Et en plus, je trouve que moi, comme je commençais, et ça me coûte assez cher quand même comme projet, faut le dire, j'investis toute seule dans mon propre projet, et bien quand je voyais le collage au loin, j'avais l'impression d'avoir été trahie. Ça me faisait vraiment une boule au ventre, parce que tu donnes de l'amour en fait. Du coup, tu te dis, je suis blessée comme quelqu'un qui serait infidèle en face de toi. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être trompée quoi.
Mais ça dépend des lieux aussi, en général.
Ouais. Ouais, ça dépend des lieux, selon les quartiers. Ça, je trouve ça assez chouette aussi de le repérer. C'est très bien. Tu vois, dans le quartier de Moulins, donc le quartier qui est à Lille, au début, ça faisait quand même pas mal dégrader. Maintenant, elles tiennent. Il y en a qui ont 4 ans, quoi. Je sais pas trop comment ça fonctionne et j'aimerais bien, tu vois, être dans la tête des gens qui dégradent. Je vois pas qui fait quoi. Tu vois, c'est... Et j'ai eu très peu de textes, très très peu. Une moustache, jamais de pénis. Quand même cool.
J'avais une question. Est-ce que t'as déjà eu des retours de tes modèles par rapport au collage que t'avais fait d'elles, qu'est-ce qu'elles en pensaient, etc. Ou même des gens dans la rue qui voyaient tes collages.
Ouais, oui, c'est vrai. Les modèles, il y a aussi la question de comment elles se voient dans le dessin. Elles soutiennent mon projet. Il y en a certaines qui sont sorties du projet. Elles le soutiennent parce qu'elles font partie en fait des femmes en lutte. Et ce que j'aime bien, c'est ce qui les unit aussi, c'est qu'elles sont pas en lutte, elles sont pas engagées, mais elles le sont dans leur vie au quotidien. Donc elles continuent à connaître mes collages. Elles ont pas trop de soucis avec le fait que je continue à les coller. Enfin, pour certaines, les retours des gens, c'est assez varié. Mais j'ai très peu de haters. Peut-être parce que mon travail n'est pas très précis. C'est-à-dire que tu ne sais pas vraiment ce que je dis. J'ai juste, il y a un modèle de femme et il est accompagné par une signature. Ma signature, c'est un cartel. C'est un papier qu'on, dans les expositions, tu mets à côté d'une œuvre pour justifier quelle est l'œuvre que tu es en train de regarder. Donc je ne signe pas sur l'œuvre. Et dessus, il y a écrit la dame qui colle, format, collage, ou comment renforcer la place des femmes dans l'espace public. Tous ces portraits sont ceux de femmes qui nous prêtent main forte. C'est pas clair. Tu ne sais pas ce que ça dit vraiment. Et si tu ne regardes pas le cartel, tu te dis juste, ah, oh, c'est un portrait de femme. Donc les seuls petits reproches que j'ai pu avoir, c'est pourquoi elle sourit pas.
J'avais vu que sur les collages que j'ai pu voir un peu dans la ville, elles avaient souvent un visage assez fermé et assez énervé, on va dire, entre guillemets. C'est voulu.
Déjà parce que dans l'espace public, t'es pas en train de sourire. Et aussi, comme moi, je les invite à poser pour soit lutter contre ce qu'elles ont vécu, elles, ou soit lutter pour les autres, elles sont défensives. C'est le but.
Ça contre vachement le truc de... Ah, une femme, elle doit toujours être souriante, elle doit toujours avoir l'air avenante. Et...
L'horreur. Et tu vois, il y avait un truc aussi qui est cool dans les rencontres que je peux avoir, c'est des gens qui me font reparler des choses auxquelles moi je pense pas. Toutes mes femmes sont immobiles alors qu'on sait que les femmes dans les espaces publics sont toujours mobiles. C'est-à-dire que les espaces sont pas faits pour t'arrêter. Souvent, c'est les hommes stagnent à des endroits, mais tu verras très peu les femmes stagner à des endroits. Les espaces sont pas accueillants pour la femme. Là, je dessinais que des portraits de femmes immobiles et du coup, elles sont en résistance avec l'habitude qu'on a de la femme qui va devoir fuir d'un endroit à un autre. On sait que l'utilisation des espaces publics par les femmes sont des déplacements professionnels. C'est elles qui utilisent le plus les transports publics et les espaces publics. Les hommes sont en voiture. Là, pour une fois, je les fais, elles stagnent, quoi.
J'aurais une dernière question. Quel est le collage qui t'a le plus marqué à faire? Si tu devais en retenir un, ce serait lequel?
Je pense, je dirais, il n'y a pas un collage en particulier, mais la situation d'avoir collé avec ma mère, je trouvais ça assez chouette, elle était hyper réticente. C'est un sujet qui l'a beaucoup ému quand j'ai commencé à parler de ce sujet-là, enfin à travailler sur ça. Et du coup, on a bu une petite bière avant pour se détendre, parce que ça peut être un peu angoissant d'aller coller dans la rue. Et on allait coller mon portrait sur le lieu de mon agression. Sa phrase était pas cool, j'ai pas trop aimé ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, t'aurais dû en coller un autre parce que t'as des portraits bien plus forts que le tien. Je me suis dit, abusé quand même. Mais bon, du coup, j'ai quand même fait cette étape-là qui, pour moi, était importante et avec elle.
Est-ce que c'était un peu une... Même de manière personnelle, c'était une sorte de thérapie pour toi de faire ça?
J'ai du mal avec thérapie comme mot. Prise de pouvoir, ouais. Souvenir aussi, tu sais, tu commémores quelque chose qui est quand même, enfin, j'ai quand même perdu une partie de ma vie à cet endroit-là. Enfin, c'est quand même sérieux ces trucs-là. De le mettre là, c'était identifier le basculement.
Et y aller avec ta mère, c'était une sorte de symbolique?
Ouais, parce qu'elle est un peu dure des fois. Elle peut contenir, tu vois, elle-même des choses, et du coup, j'avais envie, moi, de pas le contenir. J'ai des endroits où j'ai envie que ce soit pas contenu, les émotions. Du coup, là, avec elle, je lui ai dit, j'ai envie d'aller me coller sur le lieu de mon agression, et elle me dit, quand même. Et en fait, je me rends compte qu'à l'époque, j'ai très peu parlé de cette agression-là, parce que c'était trop risqué d'en parler avec mes parents. Tu sais, ça, tu t'as peur pour ton enfant, et je voulais pas qu'il m'empêche de sortir, ou qu'ils imaginent le pire à chaque fois, quoi. Donc, elle a découvert les choses au fur et à mesure de ce projet. C'est un projet qui ouvre pas mal la parole.
Vous pouvez suivre et retrouver tous les projets de la dame qui colle sur sa page Instagram, la dame tirée du bas qui colle, ou tout simplement jeter un coup d'œil au mur des ruelles lors de vos prochaines sorties. Qui sait, peut-être rencontrerez-vous l'une de ses gardiennes. Pour finir, je laisse le mot de la fin à l'artiste.
Qu'on n'hésite pas à dire aux gens quand ils sont problématiques qu'ils le sont. Les gens qui font souffrir les autres, des fois s'en rendent pas compte, mais aussi savent très bien ce qu'ils sont en train de jouer. Il faut leur dire et il faut se le dire entre nous. Il faut éjecter les personnes problématiques. Il faut les nommer, il faut les faire exister. Qu'on ne reste pas isolé. Il faut que les choses changent là-dessus. D'ailleurs, le fameux que la honte change de camp. Et je trouve que même dans nos groupes d'amis, il faut pas être tolérant.
Un reportage de Aurore Henny pour Radio Boomerang.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Radio Campus, 106,6 FM, www.campuslille.com.
Moi, je suis l'homme. Moi je suis l'homme qu'a vu l'homme. Moi je suis l'homme qu'a vu l'homme, qu'a vu l'homme, qu'a vu l'homme, qu'a vu l'ours. À ce qu'il paraît, mesdames,
ce monstre, cette bête infâme s'attaque aux bien-pensants, aux croyants, aux croquants. On dit aussi, messieurs, qu'à la place de ses yeux brûlent les foyers de haine qui vous glacent, vous enchaînent. Il y a pire encore, il est si grand, si fort, qu'une simple armée de terre ne saurait le faire taire. Mais laissez-moi vous dire, au lieu que de le fuir, sortons nos bombardiers, faut le tuer. Oh moi, moi je suis l'homme, moi je suis l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Paraît qu'il est méchant, que c'est un mécréant, qu'il est sans foi ni loi, qu'il le crie sur les toits. La musique il n'aime pas, quand elle cadence le pas, il brûle les églises, comme il change de chemise. Encore on dit de lui qu'il ne vit que la nuit, qu'il a peur du grand jour, qu'il est vide d'amour. Son petit déjeuner, un flic ou un banquier, c'est un vrai fou allié, faut le tuer. Oh moi, moi je suis l'homme qui a vu l'ours. Près de la grande forêt, dans le béton, les déchets, j'élève mes troupeaux d'insignifiants agneaux. Je suis leur bienfaiteur, ils œuvrent pour mon bonheur. Pourtant je ne supporte pas qu'on me montre du doigt. Et cet ours mal léché qui voudrait m'en montrer, moi qui les aime tant, mes agneaux, mes enfants, moi qui me suis sacrifié. Et cet ours acharné, demain c'est décidé, faut le tuer. Moi, moi je suis l'ours, dans la grande forêt, je vis de miel de baie, je me cache des humains, car je les connais bien. Quand leur vient un malheur, mauvais joueur, rageur, il leur faut un coupable, et c'est moi le coupable. Petit, j'étais nounours, dans le ciel, la grande ours, nounours a cajolé, plus tard a pourchassé l'humain pour mon malheur. Ce monstre prédateur veut ma peau de dindon, et c'est moi le pigeon.
Le Festival de Bourges s'est déroulé du 15 au 20 avril dernier, l'occasion pour des artistes de la région Hauts-de-France de faire découvrir leur univers. Et nous avons justement rencontré le duo Nord Noir, originaire de Calais. Les deux artistes nous en disent plus sur leur musique. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
On est Nord Noir, duo de musique calaisien. On fait de la musique électronique. On appelle ça du Cold Gaber. C'est à peu près le nom qu'on a trouvé qui correspond bien à ce qu'on défend en musique. Et puis on défend aussi tout ce qui est, en tout cas on détourne toute la culture du Nord, parce que c'est un peu toute l'ADN de notre projet.
Alors vous venez de nous en parler un petit peu, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, avec un peu plus de détails votre style de musique ?
C'est du Cold Gaber. En fait, on a trouvé ce nom parce que on chante et on gueule dans un micro, hein, c'est aussi ça parfois. Et puis à côté, Yann qui fait les prods oscille un peu entre techno et gabber. Le gabber qui est quand même une influence aussi du Nord pour le coup, et c'est pour ça qu'on s'amuse vachement de ça. Et puis c'est les milieux qu'on adore, quoi.
Vous venez du Nord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quelle mesure la région elle vous inspire ?
Bah, elle nous inspire déjà parce qu'on y a vécu toute notre vie, parce qu'on la connaît et parce que on a, je pense tous les deux, un lien particulier avec cette région.
Ce qui est étonnant dans ce lien qu'on a avec la région, et c'est ce qu'on dit un peu parfois dans nos chansons, c'est qu'à la fois on la déteste et à la fois on l'adore, cette région. Donc du coup on la vante à travers tous ces codes qu'on va retranscrire autrement, le carnaval, les géants ou ce genre d'image. Donc on la défend avec ça, et puis à côté de ça, par contre, évidemment, il y a toutes ces choses plutôt négatives aussi qui existent dans cette région, le taux de mortalité le plus jeune de France, le racisme qui gangrène cette région depuis très longtemps, avec les premières villes aux municipales qui appartenaient au Front National à l'époque, et maintenant on voit que d'année en année, en fait, ça s'étale de plus en plus sur notre territoire. On habite Calais, donc évidemment ça a un impact davantage encore sur notre récit, quoi. Et voilà ce qu'est un peu notre région, c'est un espèce de contraste, quoi.
Pour aborder maintenant vos chansons, est-ce que, à travers celle-ci, est-ce que vous transmettez un message ?
Pas qu'un message. On essaie d'en transmettre même plusieurs messages. L'idée quand même de la musique, du live qu'on fait, c'est de défendre de toute façon toutes les populations opprimées à travers, j'ai envie de dire, à travers la France, mais finalement à travers le monde aussi. C'est de saquer un peu les puissants qui nous gouvernent et qui choisissent de toute façon exactement ce qu'ils veulent de nos vies. Aller défendre les opprimés, et puis plutôt ensuite aller défendre aussi ces petits sentiments qui nous animent, ces émotions fortes parfois qu'on a en nous, ces choses qui nous font vibrer chaque être humain qu'on est, quoi. Et puis voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve dedans.
Donc il y a des paroles d'une de vos chansons qui m'ont fait un peu tilt. Je pense à la chanson Ma côte est pâle. Vous dites je vais la quitter, elle ne me fait plus rêver. À quoi est-ce que vous faites référence ?
Dans le mille, bah ça fait le lien direct avec ce qu'on pouvait évoquer avant, et ce sentiment de d'habiter cette région, d'habiter cet endroit, et de vouloir partir de cet endroit, se sauver de là, et en même temps de jamais y arriver, d'être toujours ramené ici. Par une espèce de force qu'on peut même pas nommer, mais ça parle un peu de ce sentiment-là qui est contradictoire finalement.
On aime quand même vivre dans une ville qui est entourée de 70 km de barbelés. C'est un peu chelou quand on le dit comme ça, mais du coup, ouais, c'est un peu la vérité. Et ma côte est pâle, ça me fait de la peine. C'est ma côte est pâle, il y a le rapport au racisme, justement, dans ce qu'on évoquait un peu avant, quoi. Et voilà, c'est un peu tout ça. On parlait de la chaleur du Nord avant, donc du coup, avant, on imaginait que les gens étaient accueillants et compagnie, mais non, finalement, moi, je vois que là, avec le temps, les gens ne le sont plus forcément. Du coup, ma côte est pâle, je vais la quitter, ça ne me fait plus rêver. C'est un peu ce qu'on dit là, quoi.
Le duo a une identité propre à lui. C'est notamment grâce à leur masque géant qu'ils portent dans leur clip. Et donc, pour parler un petit peu de votre identité visuelle, maintenant, comment est-ce que vous réalisez vos clips ? D'où viennent toutes ces idées ?
Ils vous plaisent ?
Carrément, celui de ma côte est pas, j'avoue, j'ai bien aimé.
Ouais. Bon, c'est cool. Bah, les clips, c'est moi qui les écris. Et puis ensuite c'est un travail de groupe avec le collectif TEP notamment, puisqu'on fait partie du collectif Tout est politique à Calais, qui est un collectif pluridisciplinaire, et grâce à ça, on arrive à faire des clips en créant des talents, ouais, voilà.
Et en rassemblant un peu les savoir-faire de chacun, tu vois, par exemple nos têtes de géants, c'est Lana, une artiste plasticienne calaisienne qui les a créées, et vraiment on a une espèce de microcosme artistique où il y a plein de choses à puiser, c'est ça qui est super intéressant aussi pour nous.
Le premier clip, l'Averse, nous a coûté 100 euros en tout et pour tout. Le second clip nous a coûté un bon 1000 euros, quoi. Et il a été financé en partie grâce au CIAC, qui est de Bourbourg, qui est une structure d'art contemporain, qui avait remarqué aussi le c'est pas une structure d'art contemporain.
Je corrige, c'est le centre d'interprétation Aréculture.
Aréculture. qui du coup avait remarqué un peu l'identité qu'on défendait à travers les paysages du Nord. Ils avaient une expo qui parlait un peu de ça. Ils se sont dit, bah tiens, on va pourquoi pas payer une partie de ce clip, et en fait on s'est dit l'idée de ce clip, c'est un peu, allez, si on veut répondre très très court à la question finalement, contrairement à ce qu'on vient de faire, l'idée de ce clip c'est vraiment les masques, c'est l'identité du Nord, elle vient nous attraper via ces majorettes là, et après finalement on ne peut plus la quitter, tu sais.
Et donc pour parler un petit peu de votre parcours, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la musique ?
Ça s'est un petit peu fait tout seul. Je pense que la musique, ça commence souvent par des rencontres. Et là, en fait, on a tous les deux dans notre coin. Nico écrivait des textes, moi je faisais un petit peu des compos, mais comme ça. J'ai commencé surtout à faire de la musique électronique pendant le Covid, à la base un peu pour m'occuper. Et puis on a essayé de mélanger un peu tout ça, on a eu de bons retours de notre entourage, et puis petit à petit, là aujourd'hui on est dans les Inuits du Printemps de Bourges, ce qui est un peu fou quoi, mais ça s'est plutôt fait naturellement et un peu tout seul, j'ai envie de dire.
Le premier concert a été une forme de déclic aussi, parce que c'est là où on se dit, oui, bah, là je me sens bien vivant quoi.
Et justement, comment votre duo il s'est formé ?
On s'est rencontrés en fait dans un hangar en Belgique lors d'une fête de musique électronique. Depuis, on a eu un peu du mal à se quitter quand même, parce que ça a été assez fusionnel, ça s'est naturellement formé comme ça. On n'a pas fait de la musique, en tout cas pas cette musique-là tout de suite ensemble. On composait de temps en temps pour s'amuser, mais pas avec l'identité de Nord Noir. Ça s'est fait vraiment il y a 3 ans, en réfléchissant un peu aux choses qu'on pouvait proposer.
Nord Noir se produira prochainement au Main Square Festival, ainsi qu'au Festival En Orbite. Nord Noir, de l'électro venu tout droit du Nord, un reportage de Juliette Carlier pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
C'est les Chasse-Patates sur Radio Campus.
On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillet, letaillerproduction.com, et sur ticketmaster.fr.
Thank you. au flou.
Martiens, depuis que le nucléaire
sous la soutane.
Pendant les dernières vacances de printemps, 70 jeunes sportifs en situation de handicap ont été invités à participer à l'opération JAP, autrement dit jeunes à potentiel, au sein du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des Hauts-de-France, le CREPS, à Wattignies, près de Lille. Organisées par les comités handisport des Hauts-de-France et d'Île-de-France, ces journées ont permis aux jeunes venus de toute la région et de la région parisienne de se perfectionner dans leurs pratiques sportives tout en découvrant d'autres disciplines. Présidente du comité handisport des Hauts-de-France, Nadette Tassa revient sur la genèse du projet.
Alors, c'est des journées où on va faire venir des jeunes, alors des deux territoires, donc des Hauts-de-France et de l'Île-de-France, puisque après la pandémie, on avait remarqué qu'on avait beaucoup de mal à faire venir des jeunes sur ces journées-là. Donc, on a décidé de faire en sorte que les deux comités travaillent ensemble. Et donc, c'est des journées où on va faire venir des jeunes qui sont experts dans une discipline, qui pourraient potentiellement un jour intégrer une équipe de France. Donc on a effectivement des entraîneurs qui sont là pour détecter des jeunes, donc beaucoup, et également la possibilité de découvrir d'autres pratiques sportives. Le fait de travailler en collaboration avec le comité régional Île-de-France, ça nous a permis d'avoir plus de sportifs, donc d'avoir la possibilité d'avoir des sports en collectif, et ça nous a permis aussi d'avoir plus d'experts, plus d'entraîneurs, et puis une plus grande richesse donc de pratiques.
Cette cinquième édition de l'opération Jeunes à potentiel a donc pour but d'inciter ces jeunes sportifs à découvrir d'autres pratiques et de détecter leur capacité à s'adapter et performer dans une discipline autre que la leur.
En fait, ils ont commencé dans une discipline. Bon, c'est un peu comme les valides, hein. On fait une discipline, mais finalement, on peut avoir des possibilités dans d'autres disciplines sportives qu'on n'a pas toujours détectées. Donc, en fait, on leur donne aussi l'occasion de pratiquer d'autres activités. Et parfois, un sportif qui s'était dirigé vers une discipline, finalement, en découvrant une autre pratique, et surtout avec l'œil des experts, vont découvrir qu'il a un potentiel dans une autre discipline pour laquelle il pourrait éventuellement prétendre à un jour intégrer une équipe de France.
Avant d'être invité au Krebs de Wattignies, pendant ces 5 journées d'épreuves sportives, ces jeunes ont été repérés par les entraîneurs et signalés par les membres des comités départementaux, comme le rappelle Nadette Tassard.
Effectivement, nous on travaille en étroite collaboration avec les comités départementaux, donc on en a 5, qui eux travaillent avec les clubs. Donc en fait, on a aussi d'autres moments, par exemple comme les Jeux régionaux, où on peut rencontrer ces jeunes, des journées aussi régional où on peut effectivement rencontrer ces jeunes et détecter des choses. C'est-à-dire que c'est un regard croisé entre les clubs, les comités départementaux et le comité régional. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment en équipe et donc ça nous donne l'occasion effectivement d'avoir une idée. Et puis alors après, il y a une idée aussi, c'est qu'il faut que les parents acceptent que cet enfant participe à ces stages. Et ce n'est pas toujours aisé dans le milieu du handicap.
Sur les 70 sportifs sélectionnés, avec un respect de parité entre les deux régions, Hauts-de-France et Île-de-France donc, un tiers seulement était féminin. Un axe de travail que veulent développer les présidents des comités régionaux handisport. Ainsi que l'inclusion.
Nous, nos objectifs, alors on a un travail hein, là, sur le sport féminin, donc on a effectivement, moi j'ai des salariés qui sont dédiés là, vers effectivement des journées. Alors maintenant on est un petit peu aussi sur les journées uniquement féminines, pour leur donner envie de se retrouver avec d'autres filles à pratiquer des sports. Et on a un autre objectif, parce que l'année dernière, on a eu les fonds d'amorçage de l'Agence nationale du sport pour un gros projet qui s'appelle Handi Valide, la même passion du sport. Et notre objectif, c'est de travailler en inclusion, alors c'est-à-dire une personne handi avec une personne valide. Et on travaille avec l'association Binôme qui va déployer un logiciel qui va permettre de mettre en relation une personne valide et une personne handi pour pratiquer ensemble. Alors, soit en club, soit hors club. Alors là, on est en train de le déployer avec eux et sur d'autres journées aussi. On a orienté la première année sur le public malvoyant et sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. On va étendre sur tout le territoire. Donc, c'est la course à pied, le tandem, la randonnée, la voile. Il y a tous les sports possibles. Donc, on est vraiment sur ce projet-là. On va le déployer à partir de l'année prochaine sur tous les types de handicaps. C'est-à-dire que pratiquer ensemble. Et on va focaliser aussi sur un autre versant par rapport à ce projet-là, qui sont sur les pratiques partagées. Faire des séjours avec le copain, la copine, le cousin, la cousine. C'est-à-dire, moi, je vais faire du basket fauteuil, mais je vais amener mon copain, je vais amener mon cousin. On va faire des choses ensemble. On est des valides et des handis ensemble. Et la même chose, par exemple, et avec intergénérationnel. Je vais faire une journée de pratique avec mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. Et donc, l'idée, c'est de partager. Parce qu'en fait, souvent, les jeunes en situation de handicap, ils vont se retrouver entre pairs et ils ne vont pas pouvoir partager avec leurs amis et leur famille. Donc ça, c'est super important. Et mon président dit que, en fait, la Fédération française est la fédération la plus inclusive. C'est notre but à nous. En fait, quand on est valide, on peut très bien venir prendre une licence au niveau de la Fédération française handisport. Déjà en basket, on le voit régulièrement. Des personnes valides jouent en compétition avec des personnes en situation de handicap. Elles sont dans un fauteuil. Mais en goalball, il y a plein de disciplines où on peut mettre un bandeau sur les yeux et puis on peut pratiquer avec les autres. L'idée maintenant, c'est de partager avec les valides, donc effectivement, jeu olympique, paralympique, peut-être un jour, un seul mot, mais de partager ces disciplines ensemble. Voilà. Et ça a été une idée du comité régional Hauts-de-France. Et en fait, ça rejoint tout à fait l'objectif de notre président.
Ce rassemblement de ces jeunes sportifs est un tremplin pour les journées nationales jeunes à potentiel, comme le rappelle Hélène Fontaine, directrice du comité Handisport de France. Avant d'annoncer les noms des futurs sélectionnés, dans quelques semaines, elle dresse un bilan de l'édition 2025.
C'est une superbe édition qui se déroule ici dans les Crêpes Hauts de France, dans le Crêpes Hauts de France. On a 70 jeunes inscrits de moins de 23 ans. Il faut savoir que c'est un stage qui est fait en commun entre le Handisport, donc Comité Régional Handisport Hauts-de-France et le Comité Régional Handisport Île-de-France. Donc on est à peu près moitié-moitié sur le nombre de jeunes entre les deux régions. Il faut savoir qu'on propose 9 disciplines sportives. Et justement, le fait de fusionner les deux régions comme ça sur un tel événement, ça nous permet de maintenir ces 9 disciplines, d'avoir un encadrement de qualité également, parce qu'on a des entraîneurs sportifs sur toutes les disciplines sportives. Des entraîneurs qui sont aussi réputés, c'est de la qualité pour les jeunes. Donc c'est une très belle édition en 2025. Et l'objectif maintenant pour ces jeunes, c'est que ces jeunes puissent participer au stage JAP national qui se déroulera au mois d'octobre à Bourges.
A-t-elle déjà une idée des jeunes pouvant être intégrés au stage national ? Sans rien révéler, Hélène Fontaine connaît quelques noms de sportifs des Hauts-de-France dont les membres du comité handisport croient fermement au potentiel.
Oui, il y a des jeunes qui sont sur le circuit déjà depuis longtemps, qu'on connaît, qui ont déjà participé à ce stage JAP régional et qui ont déjà été sélectionnés également sur le stage JAP national. Ces jeunes-là, on sait, on les accompagne déjà depuis plusieurs années et on a aussi des belles surprises, des belles découvertes en fait sur ce stage. Et du coup, pour nous, c'est un potentiel aussi pour l'avenir parce que c'est des jeunes qu'on va pouvoir orienter vers des clubs, que ce soit en Hauts-de-France ou en Île-de-France, qu'on va pouvoir continuer à les accompagner, à les suivre pour qu'ils puissent se perfectionner.
La patience, c'est ce qu'il faudra aux jeunes sportifs venus des 5 départements des Hauts-de-France avant de recevoir leur éventuelle convocation au stage national en octobre prochain. C'était un sujet de Thierry Tompé pour Radio Plus.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Desde 1969, Radio Campus es la radio que acompaña al pueblo del norte en su lucha cotidiana, transmitiendo por el 106.6 de FM y para el resto del mundo por el www.campuslille.com. Radio Campus Lille, la antena rebelde de Nord-Pas-de-Calais.
Ressuscitons Louis Pasteur qu'en une seule fois. vaccine curé et pasteur contre la foi. Abjurons nos cerveaux malades de cette tumeur qui dans nos corps se balade entre âme et cœur. Moi je vous parle de la plus drôle des maladies héréditaires. On se la transmet à tour de rôle, de père en fils, de fils en père. Allah, Akbar, Alléluia, Shalom et machin truc, amen. La religion de tout est là, bien pire des maladies humaines. Toi mon Dieu qui n'existe pas, regarde faire. Tout est joli, petit soldat a la croix de fer. Mieux vaut ne pas se voiler la face pour une fois. Les hommes de toutes tes paroisses ont mal au foie. Moi je te parle de la plus drôle des maladies héréditaires. On se la transmet à tour de rôle, de père en fils, de fils en père. Allah, Akbar, Alléluia, Shalom et machin truc, amen. La religion de tout est là, bien pire des maladies humaines.
Tomba, tomba, tomba. Sure.